pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Nous vous diffusons le montage que nous avons réalisé du meeting unitaire contre les OQTF qui avait lieu le 27 mai dernier à la Bourse du Travail, appelé par le collectif des jeunes du parc de Belleville. Si nous vous diffusons ce montage aujourd'hui, c'est en appel au rassemblement qui aura lieu demain contre les OQTF et en soutien aux camarades du collectif des jeunes du parc de Belleville convoqués au tribunal administratif, qui a lieu vendredi 6 juin 2025, donc demain, à 13h30, au métro Saint-Paul. Sur ce, nous, on vous laisse écouter les prises de parole réalisées lors de ce meeting, et on vous retrouve ensuite dans l'actualité des luttes.
Évacuation, il y a eu des OQTF qui sont sortis, 24 personnes sont sorties avec des OQTF, et le reste des jeunes ont été pourchassés partout à Paris. Même à la Bourse du Travail, on nous a assassinés, on a été à République, on nous a assassinés, on a été se réfugier dans un parc, on nous a assassinés. C'était une façon de nous dire on n'avait pas le droit de rester du tout en France, parce qu'on ne peut pas rester à la rue, on ne peut pas rester dans un bâtiment. On n'avait pas du tout notre place ici. Et du coup, on s'est retrouvé aussi en plus des OQTF qu'il fallait se battre parce que c'était pas des OQTF qui étaient du tout légales. Et du coup, il y a eu des mobilisations autour de cela. On a appelé beaucoup de personnes, des syndicats et des élus et surtout des avocats aussi qui nous ont beaucoup aidés pour annuler ces OQTF. On a organisé des mobilisations autour de ça. On a organisé une conférence de presse aussi autour de ces OQTF et aujourd'hui c'est un meeting que nous avons organisé pour pouvoir lever ces OQTF parce que ces OQTF c'est juste, on a bien compris que ça n'a rien à voir avec l'occupation, c'est juste que parce que c'était devenu plus un enjeu politique que des jeunes en situation de précarité qui demandaient juste d'avoir un logement et non pas se mettre en bas de force avec qui que ce soit. Et du coup, ça a été géré de manière politique. Et du coup, le pouvoir en place, actuellement, contre les étendés, leur outil le plus efficace, c'est les OQTF. Et ça, ils les utilisent à leur guise, comme ils le veulent, pour faire taire les gens, pour les intimider, pour les faire peur, pour casser leur solidarité, pour casser leur lutte et tout ce qui va avec. Et donc, nous, on s'est dit, peut-être ils ont réussi à faire ça, mais on ne va pas se laisser faire, on va se battre jusqu'au bout. Il y a des assets qui ont été annulés, on ne va pas se laisser faire, on va continuer jusqu'à ce que tous ces OQTF soient annulés et que l'égalité des droits puisse régner ici en France.
En fait, la police, ce qu'elle a fait, c'est après qu'ils ont arrêté une cinquantaine de personnes, après à la police, ils ont séparé les personnes de couleur, de l'antiracisé, de la couleur de la peau noire et les blancs. Et les autres, ils ont aussi des interrogatoires et ils ont été retenus de façon involontaire et ils les ont obligés à faire des empreintes aussi. Donc, on a compris qu'ils ont été assignés à résidence. Donc, c'est des mineurs qui se retrouvent avec des EQTF, chose qui n'est pas normale, qui n'est pas du tout légale devant la loi. Donc, c'est des mineurs qui se sont retrouvés avec des EQTF, avec des dates de naissance modifiées, ainsi de suite. Et du coup, il avait l'obligation chaque semaine d'aller signer au commissariat. Et puis voilà. Et puis, en plus de ça, à la boulangerie de l'endroit auquel il est en train de parler, ils sont associés avec des jeunes majeurs auxquels ils sont obligés de partager toutes les choses qu'ils devront faire à l'intérieur. C'est une prison transformée, quoi. Voilà. Et du coup, maintenant que votre OQTF a été annulé, c'est quoi votre ressenti par rapport à la mobilisation, par rapport à l'intimidation que veut faire la préfecture ou l'État ou face au collectif? C'est quoi votre ressenti par rapport à tout ça?
Parce que la préfecture a annulé mon OQTF il y a quelques jours avant l'audience au tribunal et a annulé cette OQTF parce qu'ils ont peur d'aller au tribunal. Ils savent qu'ils ont menti dans les OQTF. Je me sens beaucoup mieux maintenant. J'ai retrouvé ma liberté, merci. Mais j'ai continué à me mobiliser pour que c'est dû. Il faut que on se mobilise tout pour que Naka annule leur OQTF, c'est annulé. Naka fait tout possible, leur OQTF, c'est Naka annulé, comme pour moi aussi. C'est ça, je vais te dire.
D'accord, merci beaucoup. Donc, on a bien compris que sur les 24 OQTF, il y en a déjà 7 qui ont été annulés sans aller au tribunal parce que la préfecture, elle a peur qu'une fois au tribunal, parce qu'ils savent que les OQTF, ils ne sont pas fondés du tout et du coup, ils ont peur qu'ils te perdent devant le tribunal. Donc, ils les annulent comme ça. Il y a déjà 7 qui sont déjà annulés, mais ils restent quand même. Ça ne veut pas dire que c'est la fin. Donc, nos camarades nous rappellent qu'il faut se mobiliser pour ces OQTF qui restent encore. Le prochain intervenant, c'est le collectif Combat Hébergement. C'est l'école 93, je vais les laisser se présenter. C'est des femmes.
Bonjour, moi, c'est Koulibaly Makani. On fait partie de le collectif 93, Combat pour l'Hébergement. Nous, on était allés à la bourse du travail pour qu'on nous trouve le logement stable. On nous expulsait de la bourse du travail. On est parti à l'université Paris 8. On était à le gymnase aussi. Et puis après, on s'est retrouvé à la mal tournée. Après, on nous a expulsés de tous les endroits qu'on est parti. Donc, on est venu se représenter ici pour qu'on nous trouve des solutions. Parce qu'on est nombreux. Il y a d'autres qui ont des bébés de 2 semaines. Moi, mon bébé, il a 3 mois. Mais on me donne plus de logement parce qu'on dit mon bébé, il n'est plus prioritaire. Donc, on veut que, on n'a qu'à avoir des soutiens pour nous soutenir, de dire à la mairie et la préfecture de nous aider parce que nous, on appelle le 115 de Paris. Mais comme on s'occupe pas bien de nous à Paris, c'est pour cela qu'on s'est retrouvé dans le 93 pour que, on n'a qu'à avoir des soutiens pour nous soutenir, pour avoir un logement stable. On demande pas plus, on veut juste un logement stable. Donc, je vous remercie.
Merci beaucoup, Amakani. On a bien compris la situation actuelle. Pour être considéré une personne vulnérable, il faut être une femme enceinte ou avoir un bébé de 10 semaines pour être considéré comme une personne vulnérable. Et ce qui arrive aujourd'hui à ces femmes, ça nous concerne toutes et tous, c'est la même lutte. Donc bravo à ce que nous sommes tous en train de faire et je les encourage aussi. Et ensemble, on va pas se lasser du tout jusqu'à obtenir gain de cause. On va appeler, je vais appeler Samy Gaumont, c'est l'un des avocats qui nous protège contre les OQTF, avec qui on a eu des liens depuis la maison des métallos contre l'expulsion. Donc, avec qui on a eu quand même des liens depuis un moment, depuis que le collectif a commencé à être amené à des audiences. Donc, Samy, s'il est là, il va un peu parler de la situation des OQTF, de comment il défend les jeunes. Je vous laisse parler.
Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Pour ma part, je vais me concentrer sur l'aspect juridique. Chronologiquement, on a eu 12 février 2025, la ville de Paris qui obtient du tribunal administratif, enfin, du juge des référés du tribunal administratif de Paris, l'injonction de concours de la force publique pour expulser les jeunes occupants la gaieté lyrique. Le 17 mars, la ville de Paris qui adresse un courrier au préfet de police qui indique que l'expulsion des jeunes, ils y voient pas d'inconvénient à partir du moment où les propositions d'hébergement qui seront faites sont adaptées à la situation des jeunes. Donc voilà, après vous aurez compris que le caractère adapté c'est tout l'enjeu du débat. Donc 17 mars, 18 mars, enfin 17 mars, on a ce courrier-là. 18 mars, on a l'expulsion. Donc on a fait le tribunal administratif de Paris, on a saisi en référé liberté, donc je ne veux pas rentrer dans les détails juridiques, c'est la procédure d'extrême urgence où le juge statue à 48 heures. Devant le tribunal administratif de Paris, la préfecture nous dit circulaire, rien à voir, tout va bien, on a proposé des hébergements en SAS. Sauf que ce qu'il faut savoir pour les SAS, enfin, peut-être que j'y reviendrai après, mais sans trop être long, c'est que les SAS, ils sont nombre de 10, c'est des SAS régionaux. Donc moi, en étant, je suis aussi l'avocat d'Utopia 56, donc on a aussi travaillé beaucoup sur ce sujet-là. Les SAS, quand on envoie des personnes en SAS, donc il y en a 10 en France, il y a l'OFI et la préfecture du département d'accueil qui sont présents au sein des SAS et qui font un examen de la situation administrative des personnes. Et si vous ne rentrez dans aucune des cases qu'ils estiment devoir être posé, eh bien vous sortez du SAS au terme des 3 semaines, parfois même avant. Sauf que la particularité des SAS, les SAS n'accueillent que des majeurs. Et donc on a un courrier de la chef de service d'un SAS qui nous dit effectivement que les SAS n'accueillent pas des mineurs. Donc ça c'est le cadre juridique. Devant le Conseil d'État, parce qu'on a fait appel contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, on a la question de est-ce que au regard du fait que les jeunes de la Gaîté Lyrique, donc qui était occupé le théâtre de la Gaîté Lyrique, se sont vus proposer des hébergements en SAS. Est-ce que ces hébergements peuvent être regardés comme des hébergements adaptés au sens du code de l'article 345 de 2 et de 3 du code de l'action sociale et des familles? Donc pérennité, adaptation, accompagnement social. Et donc en fait nous ce qu'on disait c'était que un, il y a des personnes, des jeunes qui sont encore en recours et qui ont des dates devant le juge des enfants à Paris ou en région parisienne, ce qui fait qu'il y a déjà un sujet d'adaptation. Et surtout, à titre principal, c'est que les envoyer en SAS les oblige à se déclarer majeurs, ce qui en réalité va poser un gros problème au niveau de leur minorité dans le cadre de leur recours en minorité devant le juge des enfants. C'est le même problème qu'avec le 115. C'est-à-dire que si vous êtes mineur, vous n'êtes pas reconnu mineur par un département, vous appelez le 115, le 115 vous dit bah « nous, on héberge que des majeurs, donc déclarez-vous majeur », ils se déclarent majeurs, sauf qu'ensuite, devant le juge des enfants, bah, le juge des enfants va leur dire « mais vous êtes déclaré majeur, donc maintenant, pourquoi vous revendiquez votre minorité ?» Sauf que s'ils ne se déclarent pas majeurs, ils ne sont pas hébergés. Donc c'est un no man's land juridique. Voilà. C'est une situation voilà, très brièvement résumée, mais c'est l'idée. Et donc devant le Conseil d'État, on a eu ce débat-là, et en parallèle, donc l'audience a duré 2 heures au Conseil d'État, je ne sais pas s'il y en a qui ont assisté, où on nous a dit que le ministre de l'Intérieur nous a dit que les jeunes, c'était pas des mineurs en recours, mais des adultes en recours. Voilà, la sémantique importe. Et 2 heures après, donc on avait l'audience le matin, et l'après-midi, on avait l'audience au tribunal administratif de Paris contre l'évacuation des quais de Seine, qui a été pris le 26 mars, parce que du coup, une partie des jeunes se sont retrouvés effectivement à la rue et se sont réfugiés sur les quais de Seine. Et le préfet de police a ordonné leur expulsion sur les quais de Seine. Donc on se retrouvait à contester 2 arrêtés. Et donc sur les quais de Seine, il y avait le sujet de « vous savez même pas qui vous expulsez ». C'est-à-dire qu'ils disaient « on expulse les occupants des quais de Seine ». Sans viser les personnes, donc sans diagnostic social en amont. Il n'y a pas eu d'études de vulnérabilité. Il y avait quand même des jeunes qui avaient la tuberculose. On avait fait 55 productions devant le tribunal pour montrer que chaque situation de jeune qui était d'une vulnérabilité particulière, pas d'expulsion, pas d'examen de la situation de vulnérabilité. La juge allait enjoindre effectivement cet examen de vulnérabilité, mais l'ordonnance du Conseil d'État est tombée une heure après, ce qui fait qu'il n'y a rien eu. Donc et après, il y a eu les OQTF. Les OQTF, bon, ça a déjà été longuement abordé. On a des dates d'audience un peu en décalé. On n'est pas tous audiencés en même temps. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a des questions sur les OQTF, mais je ne sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que c'est des OQTF qui sont jugés dans un délai contraint. Après, la particularité, c'est qu'il y a des assignations à résidence qui ne sont pas fondées sur le fondement légal classique. C'est-à-dire qu'on dit vous devez rester à tel endroit pendant de telle heure à telle heure pendant tant de temps, sans qu'il y ait particulièrement de fondement légal classique. Voilà. Et on a attaqué, du coup, au fond, donc devant le juge du fond, je ne sais pas si ça parle aux gens, mais en tout cas, on a demandé l'annulation des deux arrêtés, ce qui fait que ça sera jugé dans un an, mais symboliquement, c'est quand même important qu'on puisse avoir un débat juridique sur effectivement ces deux arrêtés, puisqu'on a l'examen de légalité de ces deux arrêtés a été fait en urgence par le juge des référés, qui est du coup le juge du provisoire. Alors que là, du coup, on attaque au fond.
Juste pour dire que nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, que ce soit les tribunaux, que ce soit ces OQTF, ces IETF, c'est juste des outils de répression, des outils d'intimidation pour l'extrême droite, pour le système capitaliste. Ben voilà, c'est ce que je voulais juste rappeler. Nous allons appeler l'intercollectif Siseco, qui représente l'intercollectif et le CSP 75, mais à la fois aussi la marche de solidarité.
Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Anjouman Sissoko de la marche de solidarité et de l'intercollectif des sans-papiers. En fait, moi, d'abord, en regardant la salle, j'ai un message à passer auprès des jeunes et des sans-papiers qui sont là. Normalement, ça devrait vous transcender. Ça devrait vous transcender dans la mesure où, quand on est en difficulté aujourd'hui avec un summum au niveau du discours raciste, haineux, anti-noir, anti-musulman, anti-jeune, anti-femme, anti-sommeur. Donc, ça donne du baume au cœur. En tout cas, merci pour la salle. Moi, je vais parler de l'ancêtre de l'OQTF, c'est-à-dire les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. Nous aussi, on a connu ça dans le passé. C'est un moyen de pression pour stigmatiser les gens, pour essayer de les éloigner de toute possibilité de lutte. Mais grâce à ces Français-là, nous avons tenu bon. En 97, quand j'ai été arrêté, j'ai refusé l'avion. En refusant l'avion, on vient en comparution immédiate à Bobigny. Et là, j'ai pris 10 ans d'interdiction de séjour. Rebelote, en 2001, j'ai été arrêté à nouveau avec 10 ans antécédent qui est dans mon dossier. Et tout de suite, je suis parti à la prison de la santé. 2 mois de prison ferme, plus 10 ans d'interdiction de séjour. À l'époque, on pouvait y aller en prison pour défaut de papier. J'ai rien fait, hein. J'ai quitté du travail. On m'a fait arrêter et je suis parti à la prison de la santé. J'ai même croisé Maurice Papon, Guy Georges et puis tant d'autres prisonniers à la maison de la santé. Donc, c'est pour vous dire que à cette période-là, avec les soutiens, on a tout fait pour enlever l'interdiction. Mais dommage, en 2001, le juge qui a prononcé les 2 ans d'interdiction à Paris a levé les 2 ans d'interdiction et il m'a assigné à résidence. Et la phrase qui suit l'assignation à résidence, c'était « Vous êtes assigné à résidence jusqu'à la levée de l'interdiction de séjour ». Et le 10 ans qui a été prononcé en 97, cette juge-là, qui est vieille, raciste, sans enfant, est décédé. Donc, il n'y a plus de possibilité pour demander au tribunal de Bobigny de lever l'interdiction. Donc, la seule possibilité qui restait, c'est le ministre de l'Intérieur. Et devinez en 2001 qui était ministre de l'Intérieur, c'est la gauche socialiste Daniel Vaillant. Il a refusé catégoriquement de m'assigner à résidence. Nous avons continué la lutte avec Diallo qui est derrière ici, là, qui ont fait beaucoup de travail pour moi. Et en 2005, avec le soutien du Parti communiste, par hasard, comme je suis porte-parole de la coordination 75 des sans-papiers, À l'époque, ceux qui se rappellent, cette année-là, la préfecture a commencé à faire des rafles dans les bouches du métro. Et la Bastille, enfin, plutôt Belleville, était le bastion des rafles anti-migrants parce qu'il y a plusieurs foyers autour du métro Belleville. Donc, le Parti communiste a fait un rassemblement devant la cité et par hasard, moi, j'ai traîné là. Je suis allé en délégation avec eux et demandé au préfet, c'est eux qui ont demandé au préfet de m'assigner à résidence, de chercher à lever l'interdiction. Et le préfet a fait un courrier à l'époque à son tuteur du ministre de l'Intérieur. Et pour ceux qui se rappellent, qui sont syndicalistes, associatifs, ici, ils se rappellent de Maxime Tandonné. Tandonné était le conseiller à l'immigration de Sarkozy, ministre de l'Intérieur de l'époque, qui m'a gracié. Même la grâce en 2005, j'ai attendu encore un an et demi pour avoir pour que la préfecture accepte de me donner le titre de séjour. Donc c'est pour vous dire que c'est pas facile. Mais si vous êtes bien entouré, on a tenu bon, ils ont échoué à chaque fois qu'ils voulaient m'expliquer, ils n'ont pas pu m'expliquer. Et aujourd'hui, j'ai commencé par la carte de résident. J'ai la double nationalité, je suis même élu de Paris. Donc continuez la lutte. Merci.
Voilà, merci beaucoup à Sisseko pour son intervention. Voilà encore une fois de plus qui nous prouve que on n'obtient rien du tout si on se croise les bras. Tout ce qu'on obtient ici, il faut l'arracher en se mobilisant, en étant entouré par des bonnes personnes. Voilà. Et du coup, là, je vais appeler le GISTI.
Bonsoir à tous et à toutes, merci. Donc, on est le GISTI, le groupe d'information de soutien à tous et tous les immigrés. On apporte un soutien juridique plutôt aux personnes immigrées par des permanences, par courrier, par téléphone, par de la formation à laquelle t'as participé et plein d'autres activités. Aujourd'hui, on va vous parler un peu des OQTF qui ont été prises contre ces jeunes, qui sont particulièrement illégales. Donc, OQTF, c'est les obligations de quitter le territoire français. C'est un outil juridique qui permet d'éloigner une personne étrangère du territoire français. Et le droit interdit de prendre une OQTF contre des personnes qui sont mineures. C'est que les personnes majeures qui peuvent faire l'objet d'une OQTF. Et donc, dans le cas des jeunes qui arrivent sur le territoire français et qui demandent à être pris en charge au titre de leur minorité, on ne peut pas prendre d'OQTF à leur encontre, on ne peut pas les éloigner. Ce qui s'est passé dans le cadre du collectif des jeunes de Belleville, c'est que la préfecture, le jour de l'évacuation de la Gaîté Lyrique, a attribué de manière arbitraire des dates de naissance aux jeunes qui étaient interpellés pour permettre de prendre des OQTF au regard de leur majorité. Donc il y a des jeunes qui ont eu des dates de naissance qui permettaient la majorité la veille de l'évacuation, d'autres un peu avant. On a eu des dates juste des années de naissance qui ont été changées pour justifier la majorité du jeune. Donc là on avait quand même des démarches vraiment vraiment abusives de la part de la préfecture pour éloigner ces jeunes-là. Souvent les jeunes quand ils arrivent sur le territoire français, ils ont pas de papiers de documents d'état civil, de carte d'identité, d'actes de naissance, etc., pour justifier de leur minorité. Et normalement, c'est au moment de leur prise en charge, quand ils demandent, ils font valoir leur minorité, qu'ils doivent être accompagnés dans ces démarches-là pour faire valoir leur minorité et trouver les documents d'état civil qu'ils justifient, ce que les institutions françaises ne font jamais, ce que le conseil départemental ne fait jamais. Et donc les jeunes, ils perdent une chance de faire valoir leur minorité, c'est devant le juge des enfants, quand ils contestent le refus de prise en charge du département au regard de leur majorité, qu'ils font toutes ces démarches-là. Et c'est ce qui s'est passé avec le collectif des jeunes de Belleville. La plupart d'entre vous, vous étiez en train, soit vous aviez récupéré ces actes de naissance et vous étiez en train de les produire devant le juge des enfants, soit c'était en cours. Donc on a vraiment eu là, à ce moment-là, une pratique assez abusif de la préfecture, mais qui démontrait vraiment la volonté d'éloigner les jeunes, quoi qu'il arrive, sans se prononcer sur leur situation individuelle, sans regarder leur minorité, et de nier, en fait, la minorité des jeunes de Belleville, de nier leur minorité. Un dernier mot, simplement, c'est aussi la responsabilité du département, la situation de ces jeunes-là, qui refusent la prise en charge initiale des jeunes en contestant leur minorité systématiquement. donc qui fait tomber la seule protection contre l'éloignement qui existe encore en France depuis la loi Darmanin, c'est-à-dire la minorité qui permet de ne pas être éloignée du territoire français. Donc on a deux institutions qui ont fonctionné main dans la main pour permettre l'éloignement des jeunes de Belleville en niant leur minorité.
Merci beaucoup Amina, merci. Voilà, tout ça, ça vient consolider le fait que ces OQTF sont arbitraires. C'est clair, c'est une façon très claire de s'en prendre au collectif, parce qu'actuellement, c'est le collectif qui tient la lutte aujourd'hui et qu'il y a des personnes qui sont derrière nous et l'État ne veut pas du tout voir cela. Voilà. Et du coup, là, on va appeler l'AZ Handicra. En fait, l'AZ Handicra, c'est un collectif qui se base surtout sur les centres de rétention, qui vont témoigner un peu comment ils aident là-bas les personnes qui sont placées en rétention. Handicra, voilà.
J'ai présenté du coup l'AG vite fait. Du coup, on est l'AG qui se réunit tous les mercredis soirs, ouvert à tous. Si vous voulez venir nous soutenir, on soutient les personnes en lutte dans les CRA, donc les centres de rétention administratifs. Donc on fait souvent des réunions devant les CRA. Voilà, on a toujours besoin de soutien et de personnes qui viennent avec nous pour nous soutenir. Aussi, on passe souvent à la radio à l'envolée, sur fréquence plurielle les vendredis soirs. Oui, aussi on peut appeler sur des cabines aussi. Vous pouvez aller voir notre blog. Du coup, c'est Abat les CRA. Noblog.org, et il y a des numéros de cabine que vous pouvez appeler.
Alors, un centre de rétention, c'est une prison pour les personnes qui n'ont pas les bons papiers pour rester sur le territoire français. La politique raciste d'enfermement des étrangers, elle a commencé il y a très longtemps, mais dans des lieux fermés, c'était après la guerre d'Algérie, dans le port de Marseille. Donc c'était d'abord méconnu, et puis quand c'est sorti, il y a eu une lutte, mais au lieu d'amener à la disparition de ces centres, ça a permis d'en ouvrir d'autres, et donc en 81, ça a été légalisé, et maintenant il y en a 26 sur le territoire français. Donc au départ, on pouvait être enfermé jusqu'à 7 jours. Aujourd'hui, depuis 2018, on peut être enfermé 90 jours, voire 210 quand on est, quand on imagine qu'on est terroriste. Et on voit qu'avec le Retailleau, on pourrait aller jusqu'à 6 mois d'enfermement pour quasiment tout le monde. Et pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qui a été prévu par la loi Darmanin et ce que Retailleau prévoit, et donc pour appliquer toutes les OQTF qui sont prises de plus en plus, il y a la prévision de construction de 8 nouveaux centres de rétention, dont un qui est pas très loin d'ici, à Goussainville. Et donc, il y a aussi une lutte autour de la construction de ce centre de rétention. Et le fait qu'il n'existe pas, ça permet de pas pouvoir enfermer les gens pour les expulser.
Ouais, on voulait justement rappeler que, en fait, le système des OQTF, il tient pas sans le système des centres de rétention. Plus il y a de place en CRA, plus c'est possible de donner des OQTF et de les mettre à exécution. Du coup, dans ce sens-là, en fait, s'opposer à la nouvelle construction de CRA, c'est comme ça aussi qu'on s'oppose à la loi Darmanin, à tous les décrets de Retailleau et globalement au système même des OQTF. Soutenir les luttes à l'intérieur, ça permet aussi de faire ça, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que le seul moyen pour l'instant ou historiquement qui a marché pour fermer des CRA, fermer des bâtiments, c'est quand il y a des luttes à l'intérieur et que les prisonniers mettent le feu aux CRA et qu'il y a des bâtiments qui sont rendus inutilisables comme ça. Et peut-être le deuxième truc qu'on voulait dire, c'est aussi que nous on voit comment au plus haut niveau de l'État, la rhétorique de groupes fémonationalistes comme Némésis là qui est venu devant la Bourse du Travail, s'est repris au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire ils instrumentalisent les luttes féministes, ils instrumentalisent les violences sexistes et sexuelles pour faire passer un agenda raciste, et ça c'est vraiment au cœur du processus aussi de montée du fascisme. Et du coup, par exemple là, ce truc de pouvoir enfermer pendant 210 jours les personnes soupçonnées de terrorisme, ils sont en train d'essayer de l'appliquer aussi aux personnes qui auraient été coupables de crimes sexuels. On ne sait pas trop ce que ça désigne. Donc on voit bien que c'est au cœur de leur démarche. Et nous, on veut réaffirmer aussi que en fait, les étrangers ne sont pas plus coupables de VSS que les autres, et que la prison et l'enfermement, c'est jamais une solution à ça.
Et pour terminer, on voulait passer un enregistrement de quelqu'un qui est enfermé à Vincennes actuellement. Et pour nous, c'est important aussi de saisir ces espaces pour faire diffuser la parole de l'intérieur. Du coup, voilà, il va nous parler un peu de ce qui se passe.
J'ai toujours grandi en France. Je suis venu en France avant l'âge de 13 ans. Et que j'ai toute ma famille en France. Parce que mon pays d'origine, je suis jamais allé. Peut-être deux, trois fois. Je connais personne. J'ai toute ma famille ici. Et du coup, j'ai une obligation de quitter le territoire français. Ça veut dire que c'est d'abandonner mes parents, mes amis que j'ai connus ici, mes enfants, et découvrir un pays que je connais pas et que je connais personne. Du coup, je pense que le mot, il est gros et les causes sont énormes. Après, je sais vraiment pas quelle solution me donner à ce problème-là. Parce que d'un côté, je me dis, je suis obligé de quitter le territoire avec ça et un homme, une personne ne peut pas abandonner ses enfants, ni sa mère, ni son père. Et du coup, c'est compliqué. En plus, après les OQTF, ils enferment les gens, quand ils attrapent les enfermocrates, c'est inhumain, moi, où je vis. Là, je suis actuellement incarcéré, je dis incarcéré en retenue, en rétention à ma scène. Et c'est incroyable. Les cellules ouvertes, les douches publiques. Il y a 4-5 fois les extraits mentaux, on mange mal. Et c'est comme si on est incarcéré, alors qu'il nous manquait un papier qu'on a favorisé presque. Et ouais, 90 jours, on m'a dit je peux rester ici, ou je risque d'être envoyé dans mon pays. Et même en plus, on me dit que bientôt, ça va passer à 7 mois. Je vois pas beaucoup de gens qui pourront tenir 7 mois ici, dans ces conditions de vie. Franchement, question des lois à venir et tout, je sais pas comment ça va se passer. Mais 3 mois, c'est énorme ici. En gros, on peut enfermer tout le monde et presque on n'a pas de mot à dire. Alors, on aura un record dans chez la GND, après on vous appelle, après il n'y a pas de tribunal administratif, on est obligé d'attendre les 30 jours pour passer. C'est, pour moi, c'est pas un truc qui va aider une personne. Hein. Si tu es la personne, j'ai capté, moi je comprends pas. En gros, nous, on pense que on n'a même plus le droit à dire en France.
Nous avons encore une fois de plus des témoignages des personnes qui sont placées en rétention. C'est dit des rétentions, mais c'est des prisons en fait. C'est des personnes qui sont emprisonnées, qui n'ont pas de droits, qui sont obligées de prendre des somnifères pour pouvoir dormir. Et juste, qu'est-ce qu'ils ont mérité pour être placés là-bas? Et comme elle vient de le dire, l'une de nos luttes, c'est que ces centres de rétention ne devraient même pas exister. Je ne sais pas si c'est des centres de rétention ou des centres de séquestration, je ne sais pas. Mais ça ne devrait même pas exister, quoi. Voilà. Et c'est à nous tous ici, présents, de lutter contre tout ça. Voilà.
L'Europe est devenue le paradis des immigrés. En provenance de tous les coins du monde, ils s'y déversent par millions pour y accroître le chômage, y créer l'insécurité, y procéder à une colonisation à rebours. Mais dorénavant, ce sont aussi les trafiquants de drogue, les terroristes et les immigrés clandestins qui pourront circuler en toute liberté sans être inquiétés.
Peut-être qu'on reste cool, mais sur le bidon gaz, on fait flipper la France comme la bouteille de gaz.
Secret connexion,
un nom qui sort tout droit des rues de Paname. Deuxième sur l'instru et c'est ton étendard qui crame. Peut-être qu'on reste cool, mais sur le bidon gaz, on fait flipper la France comme la bouteille de gaz.
Secret connexion,
un nom qui sort tout droit des rues de Paname. Deuxième sur l'instru et c'est ton étendard qui crame.
Je me passerai bien de ton pays de Vajo, tes propos à balle de. Je voudrais finir ma vie au soleil et m'éclipser en deux-deux. Et mec, je suis pas le beurre qu'on tartine, ni celui qu'on baratine. C'est pas le paradis ici, parce que c'est l'argent qui domine. On se passera bien de ta France, qui nous expose aux sales influences, nous pousse au vice, mais c'est encore les mêmes qui payent la sentence. Je veux pas que mon fils grandisse là, je veux pas qu'il vive cette vie là, je veux pas qu'il puisse se dire ne serait-ce qu'une fois, mais pourquoi je suis là.
On se passera bien de cette étiquette qui nous colle à la peau, la peur du big pocket quand on pénètre dans le métro, la vigilance des gens. Tu crois que je la vois pas tous les jours, elle fait qu'amplifier ma haine, me la ramène pour un long séjour. Je me passerai bien de nouveaux héros historiques, l'éducation nationale et ses enseignants alcooliques. Et ce système qui dans la farine nous roule. Tout ça dans un pays qui aujourd'hui attire les foules.
Peut-être qu'on reste cool, mais sur le bidon gaz, on fait flipper la France comme la bouteille de gaz.
Secret connexion,
un nom qui sort tout droit des rues de Paname.
paname. Deviens sur l'instru et c'est ton étendard qui crame.
Qu'on reste cool, mais sur le beat on gaz. On fait flipper la France comme la bouteille de gaz.
Secret connexion, un nom qui sort tout droit des rues paname. Deviens sur l'instru et c'est ton étendard qui crame.
Ça on s'en passera, même un jour on se cassera. L'essentiel est de bien, mais si on est plein on se tassera. Quand ça sera, tranquillement et en scratch j'agis. Une situation ne change pas en un tour de magie. Je me passerai bien de ce doute, suis-je d'ici ou d'ailleurs. Le couscous ou la choucroute, la djellaba ou le tailleur. Ma véritable nation, j'y pense quand je suis seul. Moi je représente le piment, celui qui t'arrache la gueule.
J'assure je me passerai bien de ces douleurs. Je mettrai peut-être un peu plus de couleur à la routine qu'on vit, mais n'effacerai jamais ma rancœur. J'assure je me passerai bien de ces rues où jour et nuit y règne le mal. Où ségrégation et délinquance, ils sont des actes banals. Morale à zéro ici, je vis l'amertume des tessis. Bientôt 20 piges, je me passerai volontiers de pourrir. Je me passerai bien de ces lois à double sens, donc tu te sers comme cachette. Car s'il y avait justice en France, ça ferait longtemps que t'aurais pris perpète.
Perpète, perpète, perpète. Ouais, Haroun, Bocless, Scred, Connect.
Peut-être qu'on reste cool, mais sur le beat on gaz. On fait flipper la France, comme la bouteille de gaz.
Secret connexion,
un nom qui sort tout droit des rues de Paname. Deviens sur l'instru et c'est ton étendard qui crame.
Peut-être qu'on reste cool, mais sur le beat on gaz. On fait flipper la France, comme la bouteille de gaz.
Secret connexion, un nom qui sort tout droit des rues de Paname. Deviens sur l'instru et c'est ton étendard qui crame.
Peut-être qu'on reste cool, mais sur le beat on gaz. On fait flipper la France, comme la bouteille de gaz.
Secret connexion.
Je continue donc de vous diffuser le montage réalisé sur la base du meeting unitaire qui a été appelé par le collectif des jeunes du parc de Belleville expulsés de la Gaîté Lyrique le 18 mars 2025 dernier, en appel au rassemblement qui aura lieu demain vendredi 6 juin à 13h30 au métro Saint-Paul.
Cassé-Sénécassite, Arnaud, qui est là avec nous, qui va intervenir. Je vais nous laisser se présenter et faire sa prise de parole.
Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, on a tous et toutes entendu les témoignages poignants. Donc, pour la CGT, ce qu'on veut dire, c'est que ce meeting, c'est vraiment extrêmement important de dire qu'on refuse la fascisation de ce pays, la marche à la guerre, la logique d'opposition entre les peuples. Ce qui est en train de se jouer en France, on est à un point de rupture. Et la CGT, dans un cadre d'une large intersyndicale, puisque la CGT s'exprime, Sud va s'exprimer, mais la FSU est là également et sur cette même ligne, on ne peut pas accepter en 2025, dans un des pays les plus riches au monde, de rentrer dans une logique d'opposition et de faire en sorte que les jeunes qui arrivent après 1000 épreuves ne soient pas intégrés, ne soient pas logés, ne soient pas scolarisés dans ce pays. La CGT s'y refuse et va s'opposer fermement à cette politique gouvernementale qui est menée effectivement par la loi Darmanin et la circulaire Retailleau. Deux points pour insister que c'est dans deux directions que le gouvernement, la région, la mairie de Paris, on va y venir, attaque les jeunes, c'est à la fois les jeunes migrants qui arrivent en France et on le voit, à qui on ne fait aucune place, qu'on brutalise et qu'on a mis en dehors de la Gaîté Lyrique, mais il y a également les attaques de jeunes migrants qui étaient intégrés en France, qui étaient scolarisés, qui étaient logés et qui ont été mis dehors. C'est l'exemple du dispositif lycéen, un dispositif qui était tripartite entre la région, la ville et le rectorat de Paris. Et les trois ont décidé de mettre fin à ces logements et des jeunes qui étaient donc logés et scolarisés se sont retrouvés à la rue. Il y a donc une politique d'État qu'on dénonce, une politique de région et une politique de mairie, puisqu'on a interpellé, je dis on là aussi, une large intersyndicale, donc CGT, Sud, FSU, mais également la FCPE, RESF, la Ligue des droits de l'homme. Tout le monde est intervenu pour demander à Madame Hidalgo, l'année dernière, au moment des Jeux Olympiques, qu'il y avait 900 places de logement d'urgence à Paris. Aujourd'hui, 2025, les Jeux sont partis, il n'y a plus que 300 places. Comment c'est possible un truc pareil? Comment la France, comment la Ville Lumière en 2025 ne peut pas faire en sorte d'accueillir en son sein les jeunes qui en ont besoin? C'est un scandale et on le dénonce. Pendant ce temps-là, la mairie de Paris, en tout cas la maire, candidate à l'ONU, au Haut Commissariat aux réfugiés. Là aussi, quel symbole honteux, et on demande donc d'urgence que la mairie nous reçoive. Toujours dans les pressions de la mairie, les jeunes étaient à la Gaîté Lyrique, ils en ont été brutalement expulsés, Mais il faut savoir que la Gaîté Lyrique, qui a ouvert ses portes pendant un long moment et qui a fait en sorte que les jeunes puissent être à peu près correctement pris en charge, cette Gaîté Lyrique maintenant a perdu un certain nombre de financements puisque les acteurs et les pièces pouvaient pas se jouer. Et la mairie avait juré qu'elle prendrait en charge les pertes. Aujourd'hui, la mairie se désengage. Ce n'est pas possible et on le refuse. On refuse aussi, moi je suis de l'éducation nationale, les camarades de Sud expliqueront plus précisément ce qui se passe au rectorat, mais on voit bien que ce qu'on décide de là maintenant, c'est de dire qu'on va pas lâcher les jeunes, on va combattre cette politique jusqu'au bout. Et moi, je suis venu vous dire, la semaine dernière, la CGT Éducation était en congrès. En congrès, ça veut dire que la France entière de la CGT se réunit. Les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Corse, le Loir-et-Cher, la Manche, le Nord, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, la Seine-Maritime, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, ça a été dit, le Val-de-Marne et Mayotte, voilà des départements de France qui ont les mêmes problématiques qu'à Paris. Ce n'est pas possible et donc évidemment, on est à un point de bascule qui fait que maintenant, il va falloir se mobiliser dans un cadre beaucoup plus large, dans un cadre national. La CGT appelle à une journée d'action nationale au mois de juin.
On a écouté la CGT, ce qu'il dit, c'est pas important. On va appeler Cédric, Anne-Marie qui va intervenir.
Bonsoir à tout le monde. Moi je fais partie des alliés du collectif adhérente à Sud Éducation depuis le début de l'histoire du collectif lorsqu'ils étaient au parc de Belleville. On est un certain nombre de soutiens à avoir essayé de poser les conditions de l'exercice démocratique au sein du collectif. À savoir que il y a un peu plus d'un an, 1 an et 4 mois, ici avait lieu la première assemblée générale à la Bourse du Travail du collectif. Donc, on a déposé à chaque fois, on a réservé les salles pour le collectif. Et cette première assemblée générale, elle était animée par les jeunes. Je voudrais préciser parce que la salle était comble. C'était le 26 janvier et le lendemain, on interrompait le débat sur l'immigration qui était organisé par la mairie de Paris. Et qui s'intitulait Paris, ville d'accueil. Donc le 27, c'était la première occupation et l'obtention du premier gymnase. Je voudrais saluer le courage des jeunes qui sont toujours allés de l'avant, qui ont acquis ce sens du droit, qui est celui du droit de l'expression à travers tous les rassemblements, à travers toutes les réunions, tout ce qu'on a pu déposer, toutes les manifestations qu'on a pu déposer. Et puis leur courage au moment de monter, parce que je vais intervenir à propos de l'école, leur courage aussi au moment de monter au rectorat, lorsqu'ils ont été reçus à 2 reprises par les chefs des services qui s'occupent de la scolarisation des mineurs. Concernant l'école, puisqu'on va parler de ça, dès le départ, les jeunes ont manifesté un fort désir d'aller à l'école lorsque même ils dormaient dehors il y a un an, c'était en 2023-2024. Ils disaient, voilà, nous on veut aller à l'école. Et assez vite, on a pu leur transmettre quelques informations concernant l'existence du CASNAV. Est-ce que parmi vous, tout le monde sait ce que c'est que le CASNAV? Les jeunes, oui. Et ils se sont transmis ce savoir. Comment faire pour avoir un rendez-vous au CASNAV? En fait, c'est la première entrée pour entrer à l'école publique à Paris. Il faut savoir que pour passer des tests scolaires, il faut s'inscrire sur une plateforme numérique. La connexion est payante. Tout est problème. Tout est écrit en français. Il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas de point d'accès numérique. Un PAN, on appelle, au CASNAV pour des MNA, des mineurs non accompagnés. Il y a peu de rendez-vous qui sont proposés, mais depuis une petite année, il y a quand même 350 jeunes qui ont réussi à obtenir des rendez-vous, et ça c'est énorme. Ils l'ont fait, c'est comme les âgés qu'ils animent, ils l'ont fait seuls et parfois ils se sont entraidés lorsqu'il y avait l'obstacle de la langue et de l'outil numérique. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est le bilan en parallèle de l'école sur lequel je vais revenir, 1200 jeunes qui ont été hébergés en une année. Cette action menée d'occupation pour obtenir des hébergements dans des gymnases avec une mairie qui réclame un remboursement à l'État de presque 7 millions d'euros. Le bilan, c'est pour l'école 200 jeunes qui sont inscrits aujourd'hui, 150 qui attendent un lycée pour l'année prochaine, encore une cohorte de jeunes, encore une cohorte de jeunes qui va devoir se réinscrire, et toujours des obstacles qui sont toujours placés devant eux, des obstacles qui souvent sont illégaux. Dernier exemple, la semaine dernière, on exige parmi les papiers, parce que les jeunes ont obtenu aussi la simplification des démarches. C'est assez logique de demander à un MNA de donner une attestation d'hébergement chez l'habitant alors qu'on est mineur, non accompagné et isolé. Vous trouvez que c'est logique? Non. Donc, ils ont obtenu le droit de présenter des attestations d'hébergement pour attester de leur parisianité, concept inventé par le rectorat. Mais là, depuis la semaine dernière, maintenant, on demande des papiers de recours, ce qui est complètement illégal. Voilà, donc c'est le type d'obstacles qui sont posés sur le chemin de l'école, mais on ne va pas abandonner. Là, ce mois-ci, on va reprendre les mobilisations. Il y a beaucoup de combats encore à gagner et surtout des choses à transmettre à la coordination nationale qui a été également créée pendant cette année-là. Ça fait trop de choses, mais pour nous, c'est pas assez.
Voilà. Merci beaucoup à Sidédic et à Anne-Marie pour sa prise de parole. Là, on va appeler des collectifs à la fois, mais qui vont avoir ces intervenants. C'est des collectifs qui ont été menacés dernièrement de dissolution, juste parce qu'il et elle réclament leurs droits, et c'est comme si c'était illégal. Et comme il et elle portent la lutte et n'est pas de vivre dans une société où l'injustice règne et le colonialisme et le fascisme et la fascisation des choses. Donc, je vais appeler la Jeune Garde et Résistance Palestine.
Je vais prendre la parole pour la Jeune Garde antifasciste. Déjà, merci pour l'accueil, merci pour l'organisation. Là, tout de suite, on enrage un peu, en vérité, de voir tous les mécanismes que les structures d'extrême droite dans notre pays, nous on s'attaque à l'extrême droite en général, on enrage de voir tous les mécanismes que les structures d'extrême droite mettent en place. Voilà. Que ça, pour nous, l'extrême droite, c'est un continuum. Ça part des médias, ça part de soi-disant intellectuels. Les médias alimentent et créent des fractures qui existent au sein de la société pour créer des tensions. Ça passe par les partis qui votent des lois racistes. Et ça se termine presque dans une belle symbiose par des groupuscules violents. Souvenez-vous qu'en février, à quelques centaines de mètres d'ici, il y a une personne qui s'est fait poignarder dans une attaque de militants CGT par des nazis au cri de Paris est nazi. J'ai oublié un ingrédient dans ce panel d'arc d'extrême droite qui est l'État, bien sûr. Et le thème du meeting, c'est les OQTF. En préparant sommairement ce discours, je me suis aperçu que les OQTF, c'est ultra important. C'est devenu une sorte de sigle qu'on applique à des personnes, déjà pour les opprimer et ensuite pour les déshumaniser. Et donc, moi, ce que je vois venir, c'est qu'il va y avoir des attaques de groupuscules violents d'extrême droite à qui on se confronte. Mais leur excuse après, l'excuse des médias, l'excuse de l'État, ça veut dire oui, mais bon, il était sous OQTF, la victime. Nous, à la Jeune Garde antifasciste, on fait de l'antifascisme, on essaye de le faire avec nos petits moyens et en unitaire. Donc, on travaille avec tous celles et ceux qui se disent antifascistes. Donc, honneur à vous aussi, si vous êtes là. Et on est dans un processus de dissolution. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, en fait, les personnes liées à l'organisation reçoivent une lettre qui s'appelle une lettre de grief, dans laquelle, littéralement, l'État va dire « Voici les griefs qu'on fait, voici les reproches qu'on fait à votre organisation. » Sachez que dans cette lettre, il y a zéro menace à l'État qui est listée. Il y a 100% de griefs qui sont « Attention, vous menacez l'extrême droite. » Je vous laisse réfléchir sur ce que ça veut dire par rapport au gouvernement. Je vais conclure. On sait qu'on n'est pas les premiers. La répression de l'État, elle s'abat sur les quartiers, déjà dans les colonies, sur sur des groupes comme les ultras de foot, sur les personnes LGBT, sur les femmes. Mais cette procédure de dissolution, pour nous, ça reste une agression. On nous retire le droit. En fait, on vous retire le droit de vous organiser en tant qu'antifasciste, d'organiser votre autodéfense. Donc, notre attention, c'est de contester cette dissolution et de montrer que tout ce qui n'est pas le fascisme est l'antifascisme. Tout ce qui n'est pas le fascisme est l'antifascisme. Donc, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes tous antifascistes ici. Et pour paraphraser Kylian Mbappé, ne parlez pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour l'antifascisme, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de compétences, tout le monde peut apporter. Donc, à vous de jouer.
Là, merci pour les jeunes gardes. Maintenant, on va essayer de retrouver le collectif Urgence Palestine qui va intervenir.
Bonsoir, vous allez bien.
Tahia, Tahia Palestine.
Je vais revenir sur Tahia Palestine. Tahia Palestine, ça veut dire vive la Palestine. Aujourd'hui, vive la Palestine, c'est au-delà d'un cri de justice. C'est un cri de résistance. C'est notre cri à tous ici. Quand on dit vive la Palestine, quand on dit Palestine libre, ce n'est pas seulement notre liberté à nous, Palestiniens. C'est la liberté de chacun, chacune d'entre vous. C'est une justice pour les migrants, pour les mineurs isolés. C'est une justice pour les 24 qui sont menacés d'OQTF. C'est une justice pour chacun d'entre nous. Cette justice, elle s'inscrit dans un cadre. Ce cadre que nous subissons avec la dissolution. Nous, Urgence Palestine, un collectif qui s'est créé autour de nos voix, nous, Palestiniens. Ce cadre-là, c'est un cadre de continuum colonial. Un cadre où, peu importe où on sera ramené à qui nous sommes. Des êtres considérés par les Européens comme inférieurs. Des êtres qui sont indignes de vivre, peut-être. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, j'y suis pas. Et nous, c'est face à ça qu'on s'oppose. Nous ne cesserons jamais de nous résister. Nous ne cesserons jamais de nous battre. Dissolution ou pas. Attaque contre nous ou pas. Gel des comptes ou pas. Garde à vue ou pas. Prison ou pas. Nous ne cesserons jamais. Ce continuum colonial, c'est le même qui vise ces jeunes-là qui ont traversé des horreurs, qui ont traversé des kilomètres loin de leur famille, qui sont venus en France pour... Franchement, c'est à vous de le dire mieux que moi, ça. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus en France. Je te laisse t'exprimer.
Pour trouver une vie meilleure.
Pour trouver une vie meilleure. C'est à cause de ce continuum colonial-là qui s'abat dans vos pays, dans nos pays, que nous sommes obligés de nous exiler, de devenir des exilés, de devenir des réfugiés. C'est contre ça qu'on se bat. Et ce continuum colonial-là, il s'abat partout. Je vais parler un peu, si vous me permettez. Moi, je me considère comme un enfant de la Nakba. Nakba en arabe, c'est catastrophe. Mes parents sont des exilés de 48. Ils sont partis en Jordanie. Ils sont arrivés en France avec tout un tas de processus. Et qu'on soit ciblé aussi loin, aussi fortement par le gouvernement français, ça traduit une seule chose. La complicité indéniable de l'État français dans le génocide, dans la colonisation. Et ce que nous faisons avec Urgence Palestine et ce que font ces magnifiques jeunes que je suis fier de voir à chaque fois, c'est des écoles de résistance. Pourquoi résistance? Il faut s'interroger sur le terme. Résistance, en termes mécaniques, ça ne s'applique que quand il y a une contrainte forte. On n'est pas en résistance parce qu'on veut l'être. On est en résistance parce qu'on est contraint de l'être. Est-ce qu'on va arrêter d'être en résistance? Parce que c'est notre nature, en fait. Nous ne pouvons pas céder. Nous sommes obligés de nous lever face à ces voies coloniales, face à ces voies oppressantes. Et je vais terminer sur une seule chose. Une chose que vous devez partager avec moi. Le soir, quand on part se coucher, qu'on a la gorge nouée, qu'on a de l'angoisse, qu'on ne comprend pas ce monde, pourquoi nous sommes ciblés, nous, qui ne voulons que vivre, qu'on s'endort avec ce sentiment-là. Une fois qu'on est au lit, que les larmes qui ne coulent pas le jour devant vous coulent, que la peur, que l'angoisse et que toutes ces fièvres-là remontent quand nous sommes seuls. Qu'est-ce qui nous pousse à avancer? C'est le lendemain matin, un jour nouveau, un jour où nous serons libres, un jour où la résistance aura vaincu.
Tahia, Tahia, Palestine!
Tahia, Palestine!
Tahia, Tahia, Palestine!
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je n'ai pas demandé les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine, sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassul, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.